Vous écoutez France Culture.
Rendez-vous des politiques, nous recevons aujourd'hui Pascal Canfin, député européen Europe Écologie, élu le 7 juin 2009 dans la circonscription Île-de-France au Parlement européen, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires et aussi de la Commission marché intérieur et protection des consommateurs. Pascal Canfin également vice-président de la Commission spéciale crise financière et économique. Ça fait beaucoup de travail cela, ce qu'on va voir tout de suite avec lui. Pascal Canfin, avec qui nous avons bien des sujets à évoquer, son parcours bien sûr avant son entrée en politique, son travail entre Bruxelles et Strasbourg et au passage le quotidien justement du Parlement européen, l'avenir proche et plus lointain de l'écologie en France et en Europe, l'actualité européenne enfin très chargée, internationale aussi, à commenter en compagnie de nos partenaires et fidèles de notre émission que je vous présente tout de suite. Bonjour et bienvenue à France Culture, monsieur le député. Nous sommes donc aujourd'hui avec Philippe Reynaud, politologue, professeur de philosophie politique à Paris 2, Éloi Laurent, qui est économiste à l'OFCE, le centre de recherche en économie de sciences politiques, et Éric Mandonnet de l'Express, hebdomadaire partenaire de notre émission. C'est le rendez-vous des politiques. Dominique Rousset, bonjour à tous. Ma première question est biographique et peut-être même on va vous demander un autoportrait. Qui êtes-vous, Pascal Canfin? On ne fait pas injure de vous dire que vous n'êtes peut-être pas très connu du public pour l'instant.
Pas encore.
De nos chers auditeurs.
Tout d'abord, bonjour. Moi, j'étais troisième sur la liste Europe Écologie en Île-de-France aux élections européennes de juin, dernière Daniel Cohn-Bendit et Eva Joly. Et auparavant, j'étais journaliste au mensuel Alternatives économiques depuis plusieurs années, où je suivais les questions d'environnement, de responsabilité sociale des entreprises, de développement durable.
Et vous avez choisi d'entrer en politique à quel moment? Vous êtes engagé au sein des Verts pour commencer?
J'étais engagé au sein des Verts puisque j'étais responsable de la commission économique et sociale des Verts pour élaborer le programme économique, notamment pour les européennes. J'étais aussi engagé au Parti Vert européen parce qu'une des spécificités des écologistes sur les questions européennes, c'est qu'on essaye d'avoir le même discours en France et en Allemagne, par exemple, ou en Belgique ou en Italie. C'est-à-dire qu'on se coordonne et donc on a le plus ancien parti politique européen et ça fait partie, je pense, des choses qui structurent notre identité. Moi, j'étais actif dans ce Parti Vert européen aussi sur les questions économiques et sociales, ce qui m'a amené à travailler sur le projet défendu au niveau européen, défendu par Europe Écologie en France.
D'accord. Donc, élection, on le rappelle, hein, bien sûr, en Île-de-France, le score d'Europe Écologie a été excellent, je crois, autour de 20%, même
un peu plus.
Hein. Et donc, 4 sièges, 16% au niveau national, je le rappelle aussi, ce qui vous a valu effectivement d'être élu député. C'était pas forcément prévu?
C'était pas prévu jusqu'au vendredi qui précédait l'élection, où on a commencé à avoir des sondages régionaux qui laissaient penser qu'on pouvait faire plus de 16%, et moi, on devait faire plus de 16% pour que je sois élu et que je passe du journalisme à la politique. C'est ce qui s'est passé puisqu'on a fait plus de 21%, donc j'ai réalisé ça en 48 heures, et puis après, ça m'a pris un petit mois pour changer de vie, en quelque sorte.
Et aujourd'hui, premier bilan?
Aujourd'hui, je trouve que c'est
être
tout à fait
politique.
Passionnant. C'est passionnant. Je pense que pour moi, la politique, c'est un vrai métier, mais ce n'est pas une carrière. C'est-à-dire que c'est un vrai métier, il faut des compétences, il faut travailler, il faut être présent. Ça demande un engagement toutes les minutes. En revanche, je ne considère pas que ce soit une carrière. C'est-à-dire que mes 10 premières années dans la vie professionnelle, je ne les ai pas passées en politique. Je fais un mandat, peut-être je ferai deux mandats et après je ferai autre chose parce que je pense que c'est justement dans l'aller-retour entre la politique et d'autres activités qu'on peut enrichir son mandat.
On va revenir sur le travail que vous faites. Je l'ai dit, vous faites partie de plusieurs commissions. C'est très, évidemment très prenant, mais juste un mot ou deux peut-être sur la vie quotidienne au Parlement européen entre, c'est vrai, Bruxelles, Strasbourg, Paris, donc une navette constante. Qu'est-ce que vous auriez à en dire? Est-ce que vous avez le sentiment vraiment d'être dans l'action aussi?
On est en tout cas dans la commission affaires économiques et monétaires où je siège, on est vraiment au cœur de la régulation des marchés financiers et au cœur de la construction d'une nouvelle gouvernance pour l'Europe. Et donc, je pense que c'est en ce moment tout à fait passionnant et, je l'espère, utile. Il faut savoir que sur tout ce qui est lié à la régulation des marchés financiers, qu'on parle des produits dérivés, des fonds spéculatifs, des banques, des rémunérations, tout cela est en codécision au niveau européen. Ça veut dire que les États et le Parlement européen doivent se mettre d'accord sur le même texte. Et donc, nous avons un pouvoir très important. Et il faut savoir aussi que tout cela se passe forcément au niveau européen. C'est-à-dire que derrière les discours politiques nationaux, la traduction législative, par exemple, la traduction législative des engagements du G20, se passe au niveau européen. Donc, c'est tout à fait central d'être présent et actif à ce niveau-là.
Avec le sentiment que le Parlement est plus entendu qu'il ne l'était auparavant ?
Le traité de Lisbonne a renforcé son poids politique et symbolique. Nous, les sujets que nous traitons étaient déjà en codécision, donc il n'y a pas eu de changement institutionnel. En revanche, on est aujourd'hui dans un schéma politique où le commissaire qui en charge de ces questions-là, c'est Michel Barnier. Et je dois dire que quand on regarde le spectre de la politique gauche-droite, si je peux faire comme ça, de la Commission européenne, c'est clairement un des commissaires les plus à gauche, même si sa famille politique, c'est celle de la droite. C'est clairement un commissaire des plus à gauche de la Commission. Et donc, c'est très agréable de travailler avec lui, puisque c'est la Commission, vous le savez, qui a le monopole de l'initiative des lois en Europe et des directives. Donc, le fait que le commissaire soit engagé vraiment, sincèrement à réguler les marchés financiers, ben, ça va dans le bon sens.
Oui, c'est intéressant de vous entendre dire cela. C'est par rapport à un exemple plus français. C'est quelqu'un d'Europe écologique qui nous dit ça de Michel Barnier.
Éric
Mandonnet, c'est un scoop.
Mais vous savez, on a auditionné il y a quelques semaines, je veux juste une petite anecdote, il y a quelques semaines, Dominique Strauss-Kahn et Michel Barnier au Parlement européen, celui qui était le plus régulateur n'est pas forcément celui qu'on croit.
Éric.
Juste pour continuer sur ces questions, on a reçu il y a quelques semaines un autre eurodéputé qui tenait un discours très différent du vôtre, c'était Jean-Luc Mélenchon qui criait sa frustration vis-à-vis de ce mandat d'eurodéputé. Est-ce à dire que l'intérêt, la force, le pouvoir de l'eurodéputé dépend moins des textes que de celui qui occupe ce mandat.
Je pense qu'elle dépend. Le pouvoir du député européen dépend de deux choses. D'une part, de l'endroit où il siège. Puisque contrairement à un Parlement national, il y a des commissions qui sont en codécision, comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire que le texte, la loi européenne ne peut pas se faire sans l'aval au final des parlementaires, et donc c'est du travail qui est fait dans la commission spécifique. Et puis il y a des sujets où le Parlement est là pour simple avis. Et par exemple, les sujets liés aux politiques étrangères où Jean-Luc Mélenchon siège, la commission des affaires étrangères, honnêtement, c'est moins intéressant, je dirais. Donc je comprends quelque part sa frustration, parce que je dirais qu'il est dans la partie du Parlement qui a le moins de pouvoir. Et puis, je me permets quand même de dire qu'il faut travailler si on veut être efficace. Et en toute honnêteté, ce n'est pas forcément la première qualité au Parlement européen de Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi à sortir du groupe de la délégation française du Front de Gauche, parce qu'ils étaient divisés avec les communistes français. Donc son poids politique, honnêtement, est extrêmement faible. Donc je comprends sa frustration, mais il en est un tout petit peu responsable.
C'est dit. Pascal Canfin, donc député européen Europe Écologie que nous recevons aujourd'hui. Question des lois, Laurent.
Bah oui, puisqu'on est en fait là d'entrée sur les questions européennes, on peut peut-être en fait aborder le sujet, parce que c'est une semaine historique. Je crois que, enfin, plus d'une semaine en fait, ça fait des mois maintenant que c'est historique. Mais donc on a ce week-end un peu fou dans lequel, on a décidé à la fois de créer en toute urgence un fonds monétaire européen. La Banque Centrale Européenne a décidé de revenir sur probablement son dogme le plus sacré, qui est de ne pas acheter des titres publics. En quelque sorte, le traité de Maastricht a été réécrit sans aucune espèce d'aval des peuples. On a le sentiment de gouvernement complètement dépassé par les événements. Donc le gouvernement par accident de l'Europe a atteint là une dimension vraiment extraordinaire. Je me demande comment on vit ça quand on est élu politique, parce qu'on a le sentiment là vraiment que les règles ont changé sans que personne n'ait validé ça, sinon des ministres de l'économie et des finances à 6 heures du matin. À la fois, on s'en réjouit et on dit formidable, l'Europe est de retour, l'euro ne va pas sombrer. Et en même temps, on est quand même un petit peu sidéré. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe n'avance que par la crise ou qu'en douce ? Est-ce qu'elle n'avance que de manière technocratique ou alors de manière critique ? Mais finalement, jamais de manière démocratique.
On est dans une démocratie représentative. Ce sont les chefs d'État démocratiquement élus qui ont pris cette décision. Je ne considère pas que c'est un putsch ou une décision qui n'a pas été validée dans un cadre démocratique. La BCE est indépendante et donc il n'y avait pas de changement de vote populaire à attendre sur sa politique, qu'elle aille dans un sens ou qu'elle aille dans l'autre. Donc je ne pense pas qu'on soit dans une crise démocratique de l'Europe. Et il y a encore une fois des chefs d'État qui ont été élus pour prendre ce genre de décision. Et le problème, c'est plutôt qu'ils ne l'aient pas prise avant. Effectivement, là, je vous rejoins. Pourquoi ils l'ont pris au tout dernier moment, ils ne pouvaient plus attendre. Parce que vendredi dernier, donc à la veille, l'avant-veille de la décision qui a eu lieu samedi et dimanche, eh bien, le marché interbancaire européen était dans des conditions d'assèchement telles qu'on était sûr lundi, s'il n'y avait pas de décision prise le week-end, d'avoir une crise bancaire européenne extrêmement importante. Et donc, ils avaient attendu le plus longtemps possible. Donc je ne dirais pas qu'on est dans un cadre non démocratique, on est plutôt dans un cadre qui a péché justement d'une forme d'intergouvernementalité, chaque État ayant cherché à repousser au maximum les compromis qu'il devait faire.
Oui, donc on peut se réjouir au fond de situations de crise qui, comme vient de dire Éloi Laurent, nous pousse ou pousse l'Europe à agir.
Oui, on était au mur. Là, il y avait les spéculateurs ont réussi à obtenir plus dans l'avancée de l'Europe que un certain nombre de débats politiques. Oui. Mais encore une fois, l'Europe n'existe que par l'accord unanime de 27 États. Et ça prend du temps. Donc on peut taper sur l'Europe, mais concrètement, elle n'a pas d'existence institutionnelle sur ces sujets-là, lorsqu'il s'agit d'engager 400 ou 500 milliards d'euros, autrement que par la décision de 27 chefs d'État et de gouvernement qui, eux, ont été élus. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. En revanche, ce qui est effectivement embêtant, c'est qu'ils n'aient pas réussi à se mettre d'accord avant. Ceci dit, voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça. L'essentiel, maintenant, c'est de regarder vers l'avenir.
Il y a une conséquence peut-être du week-end qui va susciter, on peut le penser en France, un débat très fort sur les questions de démocratie et de souveraineté. C'est l'hypothèse de voir les budgets nationaux examinés par la Commission avant leur adoption par les parlements nationaux. On entend déjà le débat que cette décision va provoquer en France. Quel est votre
sujet très important dont on a assez peu parlé finalement.
On y est peu favorable en l'état actuel des choses. Parce que je pense qu'effectivement, ça va poser un problème d'acceptation démocratique par l'ensemble des États. Si je peux me permettre de reprendre un tout petit peu de recul par rapport à votre question. La décision qui a été prise de mutualiser les dettes et donc les risques associés au non-remboursement de ces dettes, c'est un compromis entre une vision française des choses et une vision allemande des choses. Donc nous avons gagné ça, nous avons fait céder l'Allemagne là-dessus. En revanche, la conséquence logique et légitime qu'a posée l'Allemagne, c'est de dire puisqu'on mutualise les risques, on doit pouvoir augmenter la surveillance mutuelle et donc on doit pouvoir faire respecter le pacte de stabilité et de croissance alors que depuis des années, on sait très bien qu'il n'est pas respecté. Donc c'est le compromis auquel on est arrivé. La conséquence logique, c'est maintenant...
Et le durcir en même temps.
Le respect, durcir les sanctions liées au non-respect, donc le faire respecter. La conséquence de ça, c'est que l'ensemble des États européens vont être dans une logique de réduction des déficits et de leur endettement. Et il y a deux chemins possibles. Le premier chemin, c'est que chaque État diminue ses dépenses publiques, les dépenses sociales, le nombre de fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires, comme en Grèce, etc. Avec un rythme qui lui sera propre, mais on aura une tendance à généraliser en Europe là-dessus. Et là, on est sûr d'aller dans la récession économique en 2011 et 2012, puisqu'il y a trois grands moteurs de l'économie. Il y a la dépense privée, la dépense publique et l'investissement des entreprises. Les entreprises sont en surcapacité. Elles n'ont aucune raison de se lancer massivement à court terme dans une vague d'investissement. Les ménages, les dépenses privées n'ont pas de raison non plus de se développer parce que justement une partie de leurs dépenses proviennent de dépenses publiques et par ailleurs elles vont plutôt être incitées à épargner davantage pour se prémunir contre la nouvelle crise qui arrive. Et puis les dépenses publiques donc par définition diminueraient. Donc on est sûr d'aller dans le chemin de la récession. C'est écrit d'avance. Comment peut-on réduire les déficits publics tout en évitant cette récession de 2011-2012? La solution qu'on propose, c'est de regarder plutôt la phase recette.
Qui ont ?
Les Verts au Parlement européen, Europe Écologie en France. La solution que nous proposons, c'est de regarder plutôt le côté recette. Le côté recette, à ce moment-là, en prenant un peu de recul, on voit que le taux d'imposition payé par un certain nombre d'acteurs économiques a diminué depuis 30 ans. Le taux réellement payé par les entreprises du CAC 40 sur les bénéfices qu'elles réalisent est de 8% selon un rapport officiel français. On a eu une baisse historique du taux sur de l'impôt sur les bénéfices, de l'impôt sur le capital, de l'impôt sur le patrimoine. Donc il est tout à fait logique, rationnel et en plus juste de regarder cela en priorité. Et il y a des choses qui peuvent être faites au niveau national, revenir sur le bouclier fiscal, revenir sur un certain nombre d'avantages qui ont été donnés dans le paquet fiscal de 2007, mais aussi d'autres choses qui peuvent se faire sans doute plus facilement au niveau européen. Et donc là, maintenant, la logique de la décision qui a été prise dimanche dernier, c'est de regarder, de mettre enfin en place une coopération fiscale en Europe, de sortir de la compétition dans laquelle on est, pour mettre en place une coopération fiscale qui va permettre à chaque État de retrouver des marges de manœuvre financières pour réduire intelligemment les déficits.
Merci pour cette réponse très, très complète, Pascal Canfin. Au contraire, on est là pour ça. Restons peut-être sur un terrain, allons sur un terrain plus politique avec Philippe Reynaud. Je pense que ce sera son intention.
Alors, j'avais un peu l'intention de parler de politique économique, puisque M. Canfin est un ancien journaliste d'Alternative économique. Mais c'est quand même des questions politiques. Parce que les deux questions que je me posais en vous entendant, c'est la deuxième ou la troisième voie que vous proposez. Elle a aucun risque d'avoir des effets dans un sort de récession. Elle est entièrement dynamique.
Pascal Canfin.
Non, mais là, on a à choisir entre diminuer la consommation d'un certain nombre d'acteurs économiques qui sont les plus fragiles. Mmh. Et donc, si vous diminuez la consommation, vous tapez dans le dur, en quelque sorte. Et en face, vous pouvez diminuer le taux d'épargne des acteurs les plus fortunés. Oui. Et donc économiquement, Éloi Laurent ne devrait pas me contredire normalement, économiquement c'est plus dangereux pour le niveau de développement économique en 2011-2012 de choisir la première voie, de taper dans la croissance, dans la consommation des plus faibles, que de taper dans l'épargne des plus riches. Au-delà de l'aspect strictement économique que vous souviez, il y a évidemment une question de justice sociale, et là il n'y a pas photo entre les deux. Donc je pense qu'il y a une cohérence à choisir ce chemin, même si ça diminuera le revenu perçu par certains, et notamment si on augmente l'impôt sur les bénéfices non réinvestis des sociétés, ça diminuera le revenu de certains actionnaires. Mais honnêtement, quand on regarde le niveau de profit des grandes entreprises françaises mais européennes, on pense qu'on est à un niveau historiquement élevé. Si je prends deux secteurs en particulier, nous on analyse ça comme une véritable ponction sur l'économie. Si on prend le secteur énergétique, mais notamment pétrolier, et le secteur financier, les profits réalisés depuis 3 ans par 3 sociétés, Total, BP, Shell, qui sont 3 compagnies européennes, ça représente 100 milliards d'euros de profits. C'est exactement sur 3 ans le montant de l'ensemble de l'aide de la zone euro à la Grèce. Donc ce sont des montants colossaux. Je pense que puiser dans ces profits réalisés ne me semble pas injuste ni inefficace sur le plan économique. Oui.
Non, mais ça, moi, je suis tout prêt à vous suivre, mais simplement, étant donné la manière dont vous présentiez les aspects positifs de la crise, c'est-à-dire le fait qu'on a eu un compromis franco-allemand qui a pu être accepté par les autres États européens, vous pensez que d'un côté l'orthodoxie allemande et de l'autre la philosophie, je ne sais pas comment il faut la définir, de Sarkozy, ça peut aller dans le sens que vous indiquez?
Je pense qu'on va toucher à deux tabous des droites en Europe. Les droites sont majoritaires en Europe, on le sait. Le premier tabou, c'est la redistribution fiscale. Et donc, ça veut dire augmenter l'impôt sur les plus riches et sur ceux qui ont bénéficié de 30 années de dérégulation financière. C'est le premier tabou. Pour l'instant, ils n'ont pas fait le pas en avant. Et le deuxième, c'est un tabou souverainiste, en quelque sorte, partagé tant par la gauche que par la droite, qui est la mise en commun de transferts de souveraineté sur les questions fiscales. Et là, on estime qu'on est... Enfin, cette crise, ce n'est pas simplement une crise de la dette, une crise financière. C'est une crise de 3 piliers majeurs du monde dans lequel on est, le libéralisme, le souverainisme et le productivisme. Et on a besoin de dépasser, pour faire de la véritable coopération fiscale, on a besoin de dépasser des formes de souverainisme. Pour lutter contre le libéralisme aussi, et pour inventer un nouveau mode de développement, on a besoin de dépasser le productivisme. Et c'est cette articulation entre ce dépassement des trois-là qui fait la matrice que nous, on porte et qu'on appelle écologie.
Oui. Alors, on va revenir justement sur l'écologie européenne, telle que vous la vivez au Parlement, et celle que nous avons actuellement en France, avec les accords que vous avez passés entre Verts et Europe Écologie, les mouvements. Juste auparavant, je voulais mentionner que vous avez été un des premiers à vous élever aussi contre les conséquences sociales de ce plan d'aide à la Grèce. C'était dès le début du mois de mai. Et vous disiez, là, vous parlez des grandes entreprises, mais je voulais quand même le dire au passage, que selon vous, l'Europe européenne, qui dispose, vous êtes nombreux à le penser, d'un budget insuffisant de toute façon, mais devrait faire preuve de solidarité et prendre en charge sur son budget le coût des mesures sociales qui sont imposées à la population.
Une partie.
Je le dis au passage. Éloi Laurent.
Oui, donc ça pose en fait très directement la question des étapes futures pour résoudre la crise, c'est-à-dire d'abord donc quel contenu précis au gouvernement économique européen. Là, on a un gouvernement économique européen par accident. Donc, est-ce qu'on a un vrai gouvernement économique institutionnel? Au demeurant, pendant 10 ans, on a eu des gens qui nous ont dit il n'y a pas besoin de gouvernement économique européen, c'est totalement inutile. Puis les mêmes nous ont dit bah, il n'y a qu'à laisser tomber l'euro et puis que la Grèce fasse faillite et je ne sais quoi encore. Bon, donc là, on est un petit peu revenu sur terre sur cette question-là. Il en faut un gouvernement économique. Donc, comment faire? Et là, il y a 2 problèmes sur la route. Le premier problème, ce sont les traités européens, parce que vous dites qu'il faut agir sur le côté des recettes et davantage sur les dépenses. Bien sûr, sur l'analyse, je suis d'accord avec vous. En termes institutionnels, vous savez très bien que c'est beaucoup plus difficile d'agir sur la partie fiscale que sur la partie dépenses, parce que tout simplement, on a le problème que vous soulignez, qui était le problème de l'unanimité. Et puis l'autre problème, c'est l'Allemagne. Il y a un immense problème, et là, je voulais vous entendre sur cette question-là, puisque les députés allemands sont les plus nombreux au Parlement européen, compte tenu des règles de répartition entre les États membres. Et là, il y a un immense problème. On a vu une Angela Merkel qui a voulu, en quelque sorte, choisir entre sa crédibilité européenne et les élections régionales, elle a perdu les deux. Et du coup, maintenant, la vraie question, c'est comment convaincre les Allemands d'avancer sur ces questions-là. Et puis, il y a à plus long terme, la question qui est comment on restaure la compétitivité des pays du Sud. Et là, c'est un problème à 10 ans. Et ça tombe bien, puisque maintenant, on pose la question de la stratégie de croissance de l'Union européenne pour les 10 prochaines années. Comment on construit dans ces pays-là, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la nouvelle compétitivité européenne pour rattraper l'avance allemande.
Pascal Canfin, député européen.
Une réponse que j'espère courte à ces questions nombreuses et importantes. L'unanimité a pour l'instant été en matière fiscale totalement paralysante. Mais les décisions qui ont été prises dimanche dernier, elles ont aussi été prises à l'unanimité. Et elles étaient totalement, ça relevait de la science-fiction il y a 6 mois encore. Donc ça a été historiquement un facteur de blocage. On peut imaginer que ça le soit peut-être moins demain, même si on en a tout à fait conscience. C'est institutionnellement compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut réussir à dépasser le souverainisme et qu'il faut plus d'Europe en la matière. Par rapport à la compétitivité, je pense qu'elle a au contenu concret à donner au gouvernement économique européen. On a quand même fait un grand pas en avant dans le débat depuis... alors la décision formelle a été prise dimanche, mais ça a été un processus de plusieurs mois pour convaincre l'Allemagne que la question des compétitivités relatives des différents États dans la zone euro était un sujet qui n'était plus un sujet tabou et qu'on devait le traiter. Et que ce n'était pas les vertueux d'un côté qui faisaient des excédents face aux méchants de l'autre côté qui faisaient des déficits, les Grecs, les Espagnols et autres, mais qu'on était sur une logique économique et pas morale, et que les excédents allemands, il faut savoir que l'Allemagne accumule les excédents dans sa balance courante, donc essentiellement la balance commerciale, que les exportations allemandes représentent près de la moitié de son produit intérieur brut, et que si l'Allemagne exporte, c'est parce qu'il y a des gens qui lui achètent. Et donc, si les gens lui achètent, ça creuse leur déficit. Et donc, si les Allemands font des excédents, c'est parce que justement d'autres, dans une économie aussi intégrée que celle de l'Europe et notamment de la zone euro, font des déficits. Donc, cette question-là était taboue. Ça n'était traité par personne en Europe parce qu'on était focalisé pour des raisons idéologiques sur le pacte de stabilité et de croissance et donc la question uniquement liée aux dettes et aux déficits publics. Donc maintenant, on a ce nouveau dossier sur la table. C'est long, c'est compliqué. Tout ce que vous avez dit sur comment on améliore la compétitivité relative des États du Sud est un vrai sujet. J'ai pas forcément la réponse, mais... au moins, le sujet est traité de manière collective. Et on a, voilà, tant que ce n'était pas traité, on n'avait aucune chance de trouver une solution. Maintenant que c'est traité, on a peut-être une chance d'en trouver une.
Bien, rapprochons-nous peut-être de l'actualité française et celle d'Europe Écologie. C'était votre intention, Éric Mandonnet,
oui, juste sur le chemin de la politique intérieure, pour faire la transition, est-ce que le regard que vous portez sur Nicolas Sarkozy lorsqu'il revêt sa casquette européenne est plus indulgent que celui que vous avez sur le Nicolas Sarkozy, président purement français?
Oui, sur la gestion de la crise grecque. parce que je pense qu'il a été suffisamment offensif pour obtenir des choses et suffisamment en retrait dans les médias pour ne pas froisser ses partenaires et permettre à l'Allemagne de bouger. Donc je pense qu'il y a eu ce dosage où Lagarde, Christine Lagarde, il y a quelques mois, a mis un pavé dans la mare en Allemagne sur la question des compétitivités. Et puis après, justement, un peu de rétropédalage symbolique pour ne pas exaspérer trop nos partenaires allemands, mais en tenant sur le fond. Donc je pense que je pense qu'on a une gestion plutôt positive. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'il y a derrière cette gestion positive, c'est qu'il y a aussi l'intérêt des banques françaises. C'est-à-dire que pourquoi cette décision a été prise dimanche, c'est parce que si elle n'avait pas été prise, il y avait une crise bancaire majeure et l'exposition des banques françaises aux autres systèmes bancaires européens les plus fragilisés, notamment de l'Europe du Sud et en Grèce, est la plus importante en Europe. Donc il y a eu une négociation politique qui a été, je pense, habilement menée, mais il y avait clairement l'intérêt de la France derrière et l'intérêt notamment d'un secteur financier. Et aujourd'hui, là où on attend Nicolas Sarkozy, c'est que maintenant qu'il a contribué, et c'était une bonne chose, à resauver les banques européennes, enfin, il pousse à une véritable régulation de ces banques et des marchés financiers. Et là, mon jugement est beaucoup moins positif.
Et là, vous l'attendez, et on s'en occupe activement au Parlement européen de cette question, comme vous nous l'avez dit en commençant. Revenons donc, oui, on est arrivé sur le terrain plus français maintenant, la mouvance écologique. Europe Écologie n'a pas pour l'instant d'existence légale. On rappelle ses très bons scores aux européennes et aux régionales, des scores tout à fait honorables, et qui l'engagent évidemment à aller plus loin. Donc il y a eu cette réunion du mois d'avril, dont on a beaucoup dit qu'elle n'avait pas été très simple. Il avait fallu mettre un peu d'accord, en gros, la position de Daniel Cohn-Bendit pour une coopérative politique, je le cite, qui n'était ni partie machine ni partie entreprise, et celle des Verts avec Cécile Duflot à leur tête pour un mouvement plus polymorphe et puis qui ne voulait pas céder trop de terrain. Apparemment, vous êtes parvenu à un accord. Allons un petit peu plus loin. Que représente ce mouvement, Éric Mandonnet ?
Oui, oui. À propos de cette métamorphose du parti, on va dire, comment voyez-vous l'invention de quelque chose de neuf dans le cadre des institutions de la Ve République, qui a une logique qui s'impose forcément à vous, institutions qui existent tant qu'elles n'ont pas été modifiées, et les socialistes au pouvoir ont plutôt accentué les traits de la Ve République qu'ils ne les ont corrigés. Donc comment faire du neuf tout en respectant les règles du jeu actuellement en vigueur, à savoir la logique de la cinquième.
Pascal Canfin.
L'exemple des libéraux démocrates en Angleterre ces derniers jours est intéressant. Ils prônent une réforme profonde du système électoral qui les a pénalisés depuis des années et des années. Et cette fois-ci, ils ont réussi à franchir le cap qui fait qu'ils vont obtenir cette réforme électorale. Donc ils sont à la fois présents dans un système électoral qu'ils contestent, et ils ont fini par réussir, après des décennies, à avoir le poids politique suffisant pour pouvoir le modifier. Et donc je pense que nous, on est un petit peu dans le même rapport aux institutions de la Ve République que les libéraux-démocrates anglais dans le rapport au mode de scrutin en Angleterre. Et donc on s'interrogera réellement dans les 3 à 6 mois qui viennent sur la nécessité ou pas d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. La décision n'est pas encore prise.
Pour vous, c'est
je pense que la décision n'est pas prise parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Si on ne présente pas de candidat, on laisse un espace politique. Et je pense que l'écologie a vocation à occuper un espace politique en France. En même temps, si on présente un candidat et qu'on n'a pas d'alliance avec le Parti socialiste, pour être très clair, on risque de ne pas avoir de groupe à l'Assemblée nationale. Et on sait que l'exemple du Modem le montre très bien. On peut faire un très gros score à une élection présidentielle et ne peser absolument rien ensuite dans les choix politiques qui sont faits parce qu'on n'a pas de groupe à l'Assemblée. Et donc, on est sur cette problématique-là. On veut éviter les deux écueils. On réfléchit à la meilleure façon de les éviter.
Philippe Reynaud, là-dessus ?
Oui, mais c'est là, me semble-t-il, qu'il y a une différence importante avec l'Angleterre. C'est que ce qui fait la force des libéraux-démocrates, c'est que ce système les désavantage, mais les oblige pas à une alliance prédéfinie. Vous, le système électoral vous oblige à une alliance avec le Parti socialiste. Et quelles que soient les qualités, par ailleurs, que vous trouvez à Michel Barnier d'un côté et à la gestion européenne de la presse de Sarkozy, je ne vois pas très bien, peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas très bien Europe Écologie faire le type d'alliance que s'apprêtent à faire les libéraux-démocrates.
Non, je n'ai pas dit que nous allions nous allier à l'UMP demain.
Pour obtenir un changement de
Je ne suis pas sûr que
trop à gauche, l'UMP.
Je ne suis pas sûr que les libéraux-démocrates... leur principal avantage aujourd'hui, c'était de pouvoir choisir entre les deux. Je pense qu'ils étaient aussi divisés sur ces alliances. Les libéraux-démocrates, vous aviez le Nord qui est très social-démocrate, candidats, les députés du Nord et députés du Sud. Moi, j'en ai au Parlement européen. La présidente de ma commission, c'est une libdem qui représente très, très bien les intérêts de la city londonienne. Donc, ils sont très divisés sur ces questions-là. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle à reproduire.
Et puis, l'histoire n'est pas finie. Oui, pardon, Éloi Laurent.
Non, sur le fond, je pense que la position quand même d'Europe Écologie est bonne, mais du coup, évidemment, les problèmes commencent. Donc, elle est bonne, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'écologie revient à gauche exactement au bon moment. C'est-à-dire, l'écologie était à gauche dans les années 70, plutôt à droite dans les années 80, plutôt à gauche dans les années 90. Elle est revenue un peu à droite avec le Grenelle de l'environnement. Et là, comme ça se termine en autre boudin, ça revient finalement à gauche. Je pense que c'est vraiment la bonne formule de ce point de vue-là pour un parti qui est désormais la troisième force politique française, et c'est une très bonne chose. Mais en même temps, on voit immédiatement surgir des débats sur la nature de l'appareil. Et j'avoue que moi, je n'ai rien compris, mais strictement rien compris à ce débat entre Daniel Cohn-Bendit et Cécile Duflo. Cet appel du 22 mars me paraît complètement bizarre dans cette idée qu'il faut se concentrer sur l'appareil, etc. J'étais d'ailleurs sur le site internet de l'appel du 22 mars. Il y a 50 contributions les unes à la suite des autres qui disent toutes qu'il faut faire la révolution. Donc là, on se dit vraiment qu'il y a un gros problème parce que à peu près tout le monde a des idées sur la façon de procéder. Il n'y a par contre pas grand-chose sur le fond. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que quand on commence à se concentrer sur la question de l'appareil, c'est bien si ça dure 2 mois. Parce que la vraie question ensuite, c'est quel programme et comment consolider cette position de troisième force politique française, parce que rien n'est encore fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même ancrer ça dans le...
Cécile Duflo a déjà répondu là-dessus qu'effectivement, le programme était en cours d'élaboration et qu'on s'en occupait dès à présent.
Bien sûr. Donc, comme Éloi Laurent le disait, cet appel date du 22 mars. Il ne fallait pas que ça dure plus de 2 mois. Donc on en est en mai et on est effectivement passé à une autre étape qui est la constitution du projet en parallèle de la structuration, l'organisation. Alors, première chose, depuis des années, les analystes, et je pense que sur France Culture, on entend ça régulièrement, disent la façon historique des partis politiques de faire la politique, de représenter la société, d'avoir le lien avec la société civile, les associations, etc., n'est plus moderne, il faut revoir tout ça. Nous, on essaye justement de le faire. C'est-à-dire qu'on est sorti du discours et on essaye de le mettre en pratique. Forcément, ce n'est pas en claquant des doigts. Si Éloi Laurent a une solution, qui nous la donne immédiatement. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a des questions de pouvoir, il y a des questions de démocratie, il y a des questions de validation collective des choix, des questions de vous êtes suffisamment dedans pour pouvoir participer au projet, mais en même temps, vous ne voulez pas être trop dedans parce que vous êtes dans une association, les associations et les politiques, c'est des relations différentes. Et donc, quel statut on vous donne? Ce sont des questions normales qu'on se pose. Et c'est, personne n'a la réponse et on essaie de trouver, d'inventer cette réponse en marchant. Donc moi, je trouve pas ça désespérant, négatif. Je trouve ça au contraire très positif que nous, on essaye de passer à l'acte. Sur le fond, maintenant, je pense que la question gauche-droite que vous évoquiez tout à l'heure, je peux peut-être y revenir une seconde, notre projet, notre vision, notre matrice, c'est l'écologie. Et elle dépasse trois piliers, libéralisme, productivisme, souverainisme. Je pense que c'est important parce que quand on discute avec certaines personnes à gauche de la gauche, ce sont des gens qui sont très souverainistes. Et là, on se heurte clairement à eux.
Éric,
Lorsqu'on discute avec des gens de droite qui peuvent être aussi européens que nous, je pense que les députés du Modem, par exemple, sont très fédéralistes, comme nous, on se heurte à la question, à ce moment-là, du libéralisme et très largement du productivisme. Voilà. Et donc, nous ne sommes affiliés à aucun camp, je dirais. Simplement, quand on regarde avec qui on peut faire des alliances, dans certains cas, on se heurte aux trois piliers. On est en désaccord sur le souverainisme, on est en désaccord sur le productivisme, en désaccord sur le libéralisme. Dans d'autres cas, nous n'avons qu'un seul élément qui est en désaccord, et c'est toute la tension.
Alors,
le problème des alliances, vous privilégiez tout à l'heure une alliance avec le Parti Socialiste aux législatives. Il y a eu un exemple concret. La semaine dernière, il y a eu ce meeting unitaire de la gauche sur les retraites. Le PS y est allé à reculons. Il est allé en envoyant un membre qui n'était pas le plus éminent de la direction et a ensuite aussitôt dit « on y est allé une fois, on ne recommencera pas de sitôt ». Les Verts étaient présents, Cécile Duflot était présente. Et donc, par rapport à votre... est-ce à dire que sur un dossier comme les retraites, vous divergez même dans le diagnostic avec votre allié naturel, le Parti Socialiste?
Non, on ne diverge pas, on discute. Vous êtes vraiment dans une logique de ce que Daniel Cohn-Bendit appelle la caporalisation. On n'est pas dans une logique militaire où il y aurait une ligne, une discipline, et les autres, c'est nos ennemis, il ne faut pas discuter. Au contraire, c'est nos partenaires, donc on est d'accord avec tout. On est dans une logique d'essayer de faire changer la société, de trouver les nouveaux compromis sociaux. Trouver le système de retraite et de manière générale l'État-providence, c'est quelque chose qui a été institué en 1945. Ça fait 60 ans que ça n'a pas fondamentalement pas bougé sur la vision que l'on a de ce quatrième temps de la vie. Ça n'a pas du tout été conçu pour ça. Maintenant, on a un quatrième temps de la vie qui s'appelle les retraites, qui dure 20-25 ans, selon les CSP. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un débat de société là-dessus et d'être pas forcément tous d'accord sur tout, mais d'avoir cette vision qui est une vision de refonder ce compromis social de l'État-providence. Ensuite, il y a la question financière. Et là, on va être parfois d'accord avec certaines propositions socialistes, parfois d'accord avec certaines propositions de Sarkozy s'il veut augmenter la CSG sur le patrimoine, par exemple, ou d'augmenter l'impôt payé, la contribution au système de retraite payé par le capital. On va parfois être d'accord avec le Front de Gauche quand ils vont mettre l'accent sur la répartition de la valeur ajoutée. Soyons ouverts, n'ayons pas un débat dogmatique. Ce qui compte, c'est à la fin d'arriver à un nouveau compromis social. Et on est capable de parler avec tout le monde. Et donc, c'est pas des divisions, je trouve que c'est au contraire cette diversité du rassemblement des écologistes qui fait leur intelligence et leur pertinence.
Donc l'écologie n'est pas de gauche, question toujours posée.
L'écologie, elle est écologiste. Si la gauche devient écologiste, alors l'écologie sera de gauche. L'écologie, elle est écologiste et c'est tout. Voilà.
Mais vous savez que beaucoup de gens disent qu'elle ne peut pas ne pas être de gauche.
L'écologie encore une fois, ça n'a...
C'est
que dans certains États, la gauche et la droite, ce sont des facteurs culturels. Je vais vous dire quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire. C'est évident que les députés UMP au Parlement européen sont beaucoup plus à gauche que les députés travaillistes. Pourtant, les travaillistes, c'est la gauche en Angleterre, et l'UMP, c'est la droite. Donc, c'est des notions relatives, culturelles. L'État-providence, il a été fondé aussi par les communistes et les gaullistes. Les gaullistes, ils ont fait des choses qu'aujourd'hui, Sarkozy veut détricoter et que les sociolibéraux voudraient détricoter. Où est la gauche, où est la droite? Donc, arrêtons de plaquer des schémas un peu faciles et raisonnons de manière un peu plus intelligente.
Philippe Reynaud.
C'est très intéressant, mais vous êtes quand même pris dans un système politique qui ne va pas bouger tout seul et qui vous pousse plutôt à des alliances à gauche, me semble-t-il. Mais je voulais revenir sur votre triple autodéfinition de tout à l'heure, parce que je vois très bien ce qui vous distingue du souverainisme, ça serait dur de ne pas le voir. Je vois évidemment pourquoi vous n'êtes pas productiviste, parce que sinon on ne comprendrait plus rien. Mais je ne comprends pas très bien quelle est la nature de votre désaccord avec le libéralisme. D'abord parce que c'est une notion qui a toutes sortes de significations. Mais ma foi, si vous voulez, depuis Johnsonisme, depuis au moins Mill, il y a des gens chez les libéraux qui acceptent la régulation, la redistribution, qui acceptent même de critiquer la notion de croissance indéfinie. C'était déjà le cas chez Mill. Donc je me demande si ce troisième pied de votre trépied est pas un petit peu un résidu de votre position objective dans la gauche française.
Pascal Canfin, puis Éloi Laurent, votre question.
J'aurais dû dire juste un mot néolibéralisme, parce que je faisais plus référence à Thatcher, à Reagan et à Friedman que à Mill.
Ok, d'accord.
Cela dit,
des Thatcheriens et des Reaganiens purs et durs aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça.
Non, mais on est... Enfin, je ne sais pas si je peux couper la parole à Éloi Laurent, mais on est clairement sur la continuité d'un enfin, le cycle économique. On a eu les années 30 avec progressivement le shift vers la logique keynésienne État-providence qui était remise en cause à partir du début des années 70 avec l'échange flottant, etc. Enfin, la décennie 70 a fait le shift. Ça fait 40 ans et là, on est exactement sur la décennie qui, à notre avis, va repartir sur un autre modèle.
Ouais. C'est
très Laurent, et puis je voudrais qu'on vous entende aussi sur le Grenelle 2.
Voilà, exactement.
C'était votre intention.
C'était ma question. Non, juste d'un mot, revenir peut-être sur votre idée que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, qu'elle est juste écologiste. Je pense que si vous voulez lier la question de l'écologie à la question des inégalités, vous la ramenez plutôt à gauche.
Oui, d'accord. Et pourquoi la question des inégalités ne pourrait pas être consubstantielle au paradigme écologique? Pourquoi il faudra aller chercher à gauche la question des inégalités et pas l'intégrer? Parce que là, vous pensez qu'on doit sous-traiter à la gauche, en quelque sorte, qu'on n'est pas capable de l'intégrer. Je pense que l'écologie est promeut fondamentalement une réduction des inégalités, parce qu'on ne peut pas aller vers un système soutenable sur le plan de nos modes de vie si les plus riches, en quelque sorte d'entre nous, ne donnent pas d'abord l'exemple. Et pour qu'ils donnent l'exemple, il faut réduire, soit ils réduisent volontairement, soit on réduit en diminuant leur niveau de consommation par l'impôt. Et donc on réduit leur prédation environnementale et donc on réduit les inégalités. Donc je pense que c'est consubstantiel à l'écologie.
Oui, non, je vois bien la stratégie de l'englobement, ce que vous voulez faire au PS, ce que Europe Écologie a fait au Vert. Mais donc, sur le fond donc, du Grenelle 2, alors ça se termine assez mal. Jean-Louis Borloo a parlé d'un printemps de l'écologie. En fait, je crois que c'est pas forcément une très bonne métaphore quand on voit le temps qu'il fait. Ça évoque un peu ça, cette idée que ça se termine un petit peu en eau de boudin. Mais en même temps, il y a des choses, à mon avis, une chose positive qu'on ne dit pas suffisamment, une chose très négative qu'on ne dit pas suffisamment, au-delà de tous les débats qui ont été déjà évoqués. La chose positive, c'est que finalement, ça donne un cadre, en fait. Le Grenelle, c'est un cadre, et je crois qu'il a posé le cadre. Et un cadre, ça faisait en fait quand même très longtemps, hein. La France avait été pionnière dans les lois écologistes dans les années 60, sur l'eau, sur l'air. On attendait quand même ça depuis quasiment 40 ans, et on a désormais ce cadre, et au fond, il appartiendra au gouvernement qui arrivera en 2012, et si les écologistes en sont, ce sera parfait, travailler ce cadre et de l'utiliser. Ça, c'est la chose positive. Et la deuxième, au-delà de toutes les reculades dont je conviens, et la deuxième chose qui est par contre négative, c'est petit 1, qu'on voit très mal comment ce Grenelle 2 est compatible avec la disparition des niches fiscales, parce que l'écologie, la politique écologiste française est un nid de niches, véritablement, à commencer par le bonus-malus, et donc il y a un vrai problème si on veut éliminer ces niches fiscales avec la fiscalité écologiste très éclatée qu'on a désormais en France, puisqu'on n'a pas su faire une fiscalité centralisée. Et le deuxième problème, c'est évidemment la réduction des dépenses publiques. Et là, on voit très mal aussi comment la réduction des dépenses publiques, enfin, gel des dépenses publiques décidées par le gouvernement, pardon, on voit très mal comment on va trouver ces 440 milliards. Ouais. Donc là, il y a un vrai problème de financement qui est, je crois...
Gel annoncé par François Fillon, bien entendu. Oui. Juste au passage, on rappelle que les trois députés verts à l'Assemblée nationale ont voté contre le projet de loi Grenelle, disant effectivement que ce texte contenait, selon eux, des dizaines de reculs en matière de défense de l'environnement, notamment les contraintes imposées au secteur éolien. Je le rappelle juste pour mémoire.
Juste un tout petit dernier point sur cette question. J'ai entendu Sylvie Duflot dire c'est parce qu'on pense que ça n'a pas été assez loin, mais je veux dire, les députés verts s'étaient déjà abstenus sur le Grenelle 1, qui allait déjà assez loin. Donc moi, je ne comprends pas du tout
Pascal
la position
Canfin,
des
pourquoi députés. Cette position
je vais vous l'expliquer, Laurent. Nous étions favorables, on aurait signé de toutes les mains que nous pouvons avoir, les compromis issus des tables rondes du Grenelle, qui étaient déjà des compromis, qui étaient issus d'un processus tout à fait novateur et intéressant de discussion entre la haute fonction publique, les entreprises, les syndicats, les ONG, les collectivités territoriales. C'était un dispositif dans lequel nous étions partie prenante, une sénatrice verte qui était responsable d'un des groupes de travail du Grenelle. Ça, c'était les compromis de l'automne 2007. Ensuite, vous avez la loi Grenelle 1 qui est en retrait par rapport à ces compromis. Donc on passe d'un soutien à une abstention. Et ensuite, vous avez une loi Grenelle 2 qui est encore en retrait par rapport au Grenelle 1, qui était lui-même en retrait par rapport aux tables rondes. Et donc, on passe à une logique d'opposition qui n'est pas une opposition par rapport au processus du Grenelle qu'on a au contraire soutenu et qu'on reprendra si jamais il y a une alternance en 2012, qui est une opposition par rapport à la dynamique d'ensemble qui est un étiolement. Je pense que l'élément majeur, c'est que pour nous, il n'y a pas d'opposition entre économie, relance, déficit public et environnement. Le modèle de développement, le modèle qui va faire notre prospérité demain, c'est l'application d'un nouveau modèle de développement dans lequel l'écologie a toute sa place. Je vous donne juste un chiffre qui vient des travaux de Natixis. Vous allez me dire, Natixis s'est planté sur tout auparavant, ils peuvent aussi se tromper là-dessus. Bon, mais c'est Olivier Godard, que Léa Laurent connaît certainement, qui a fait cette étude pour Natixis, qui montre que quand le pétrole passe de 80-85 dollars le baril, comme c'est son niveau actuel, à 150, comme c'était le niveau avant la crise des subprimes, l'été 2008, c'est l'équivalent d'une ponction sur le produit intérieur brut de la France de 3%, 2,9 précisément. Ça veut dire que si on a cette tendance-là d'augmentation du prix du pétrole, qui est quand même maintenant unanimement reconnue, comme ça va, on sait qu'on va, c'est ce chemin-là vers lequel on va, on sait qu'on va prendre l'équivalent de 3 points de croissance dans la vue, en quelque sorte, qui vont partir dans les pays producteurs ou auprès des actionnaires des compagnies pétrolières. Qui peut croire que si on ne résout pas cette dépendance au pétrole, si on ne diminue pas, si on n'améliore pas notre efficacité énergétique, si on ne diminue pas notre consommation de pétrole, on pourra faire ces fameux, cette fameuse croissance. C'est impossible.
Surtout si on renonce au nucléaire.
Non, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que les conditions de la prospérité de demain, pas seulement dans 50 ans, mais de demain, c'est le mettre en place maintenant une logique de développement écologique. Et c'est pour ça qu'on pense que le Grenelle, c'est une occasion ratée, parce qu'il va maintenant, effectivement, falloir attendre 2 ans, 3 ans pour retrouver l'élan et le souffle du Grenelle initial.
Autre question sur l'éolien. Vous regrettez notamment les mesures qui ont été prises, réduites
Oui, on est quand même dans un système assez, très différent de ce qui se passe dans d'autres pays où l'éolien, ça fonctionne. On est sur une logique un peu punitive, en quelque sorte, et on donne à ceux qui, aux forces de blocage, un poids très important.
Bon. Oui. Mais ceci dit, notre priorité... On peut rappeler un peu les amendements qui ont réduit en fait les intentions.
Voilà, il y a des amendements aussi qui ont permis au nucléaire de se passer d'études d'impact. Bon. Donc on voit bien tous les lobbies différents qui ont été à l'affût de cette loi.
Mobilisés.
Et à la fin ça ressemble un peu à un gruyère. Mais ceci dit, je pense qu'il est... Excusez-moi, voilà. C'est parce que j'étais perturbé, je ne savais pas si vous vouliez m'interrompre. Je pense qu'il est essentiel de rappeler que notre priorité, c'est l'efficacité énergétique. Que cette efficacité énergétique, elle est extrêmement créatrice d'emplois. Et donc la sortie de crise à court terme et l'invention du modèle de développement à long terme sont cohérentes à nos yeux. On peut créer, si on met en place les bonnes politiques publiques, et encore une fois, malheureusement, le Grenelle, c'est un pas insuffisant pour aller dans cette direction, on peut créer entre 500 et 800 000 emplois. Faisons-le, mettons en place les politiques publiques, les politiques industrielles qui sont adaptées à l'économie de demain.
Oui. Éric Mandonnet, vous voulez ajouter autre chose ?
Une question d'actualité.
On est dans les 10 dernières minutes.
La semaine... a montré un nouvel allié pour les députés verts. Cette fois-ci, c'était les députés communistes, puisque à l'Assemblée nationale,
ouais. Vous voyez, lors de, on n'est pas si droitier que ça.
Lors de la proposition de résolution UMP, le vœu contre le port du voile intégral, l'ensemble des députés ont adopté cette résolution, à l'exception des verts et des députés communistes. À l'exception encore d'un député communiste,
André Gérard, qui a porté ce projet depuis le début. Porté,
ouais. Les Verts et les communistes ont refusé de participer au scrutin pour ne pas cautionner, disait-il, une opération de stigmatisation des musulmans. Est-ce que cela veut dire que sur les questions sociétales, l'écart reste important avec le Parti socialiste ?
Je ne sais pas, le Parti socialiste n'a pas prévu non plus de voter la loi, me semble-t-il. Donc c'est un écart relatif.
Il
a soutenu la résolution, mais ne votera pas la loi, d'après les éléments d'information qu'on peut avoir. Nous, notre vision des choses, c'est de se dire, mais à ce moment-là, moi je vis par exemple dans le 19e arrondissement à Paris, c'est la plus grande communauté Lubavitch, donc juif orthodoxe, d'Europe. Je vois des tas de femmes qui se baladent avec des perruques. On est obligé à leur couper les cheveux, raser la tête. Elles se baladent avec toutes la même perruque. Est-ce qu'on doit considérer que la dignité de la femme est atteinte et qu'à ce moment-là, il faut une loi ? Ça représente quelques milliers de personnes à Paris. Est-ce que c'est un sujet de société ? Certainement. Est-ce que ça nécessite une loi sur la perruque de la communauté Lubavitch, je ne pense pas. Et je pense que le voile intégral, c'est la même chose. C'est quelque chose que l'on condamne au nom de la dignité de la femme. C'est parfaitement condamnable. Mais la réponse politique, ce n'est pas une loi pour 300 ou 400 ou 1000 personnes.
Oui.
Parce que sinon, on peut multiplier comme ça.
En quoi le nombre est un facteur ? C'est-à-dire à partir
parce que
de quand
on ne traite pas un sujet micro-social avec une réponse macro-sociale qui est une loi. À ce moment-là, pourquoi pas une loi sur les perruques des Lubavitch ? Excusez-moi, je ne vois pas, la différence, sauf de dire dans certains cas, c'est plus dégradant que d'autres.
Vous trouvez que porter une perruque, c'est la même chose que...
Mais vous savez bien ce qu'il y a derrière la signification de cette perruque. Bon, ouais. Discutons-en. On voit bien, fondamentalement, c'est les fondamentalismes religieux, quels qu'ils soient orthodoxes, juifs, catholiques, enfin chrétiens, qui sont en cause. Et pourquoi le faire uniquement sur le voile intégral? C'est là où on dénonce une stigmatisation d'une communauté ou d'une religion particulière. Donc on n'est pas favorable à cette stigmatisation. On n'est pas non plus, évidemment, favorable au port du voile intégral. Je pense qu'on est sur une mauvaise façon de poser le problème.
Pascal Canfin, juste une remarque. Est-ce vraiment ça fait partie du débat, de ce débat très complexe, mais est-ce vraiment stigmatiser les musulmans que de prendre cette loi? C'est ce qu'on vous oppose parfois comme argument, car les musulmans eux-mêmes, dans leur grande majorité, ne sont pas pour le port de la burqa. Donc est-ce que ce n'est pas à l'inverse? Les mettre dans cette position d'être pour.
Non, il s'agit de si vous voulez, il y a un continuum.
Le directeur Boubacar a évolué, d'ailleurs.
Bien sûr. Mais, encore une fois, nous critiquons le port du voile intégral, comme nous critiquons tous les fondamentalismes religieux. Bien. Nous ne considérons pas que tous les musulmans sont des fondamentalistes. Simplement, quand on voit la logique politique qu'il y a derrière le fait de faire une loi pour répondre à cette question-là, on est bien sur la stigmatisation, non pas de 300 personnes, puisque sinon c'est absurde de faire une loi pour 300 personnes. On est bien sur la stigmatisation
d'une opportunité
beaucoup plus large, etc.
Est-ce que je peux juste mentionner que la Commission du Parlement européen s'est prononcée contre l'interdiction du voile? C'est un élément intéressant, justement, à l'heure où beaucoup de gouvernements européens, nous ne sommes pas les seuls en France, sont pour l'application d'une loi, enfin pour le vote pour une loi. Et ça montre un peu cette indépendance aussi du Parlement européen, d'une certaine manière. La position a été prise contre l'interdiction, c'est bien vrai.
Indépendance vis-à-vis de qui?
Des gouvernements, des
bien
États.
Et évidemment, c'est notre indépendance
institutionnelle. Et parfois sur des questions de société, des prises de position assez différentes de celles que les États...
On l'a vu sur les questions liées à l'Internet. Au moment où il y avait la loi Hadopi, le Parlement prenait une position exactement inverse. Donc le Parlement a effectivement une vision, une stratégie propre qui est indépendante de celle que chaque État peut conduire. Et il ne faudrait pas penser que la France est le centre de l'Europe et le centre du monde. Et donc, en l'occurrence, le Parlement européen ne regarde pas plus spécifiquement ce qui se fait en France par rapport à d'autres pays.
Cela dit, dans une logique fédérale qui est la vôtre, si j'ai bien compris, il pourrait être concevable que le Parlement européen n'ait pas à s'occuper de tout et que les États puissent décider librement de ce qu'ils font dans ces questions-là.
Bien sûr, mais là, je pense que c'est une décision de principe. Je ne pense pas que ce soit une question législative. Donc après, on est évidemment favorable à une logique fédérale. Avec le balancier logique, c'est la question de la subsidiarité. Et donc, c'est évident qu'on ne prône pas qu'il y ait une loi européenne sur ces questions-là. Ça relève des modèles sociaux différents. Et donc, on est entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est plus une décision... Voilà, sur quelques valeurs qu'une loi européenne.
Voilà, une position parce que le port du voile intégral pourrait, je cite, « violer le droit à la liberté de religion » qui est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'argument qui est retenu. Les toutes dernières questions, Éloi Laurent.
Oui, puisqu'on a commencé sur le Parlement européen, on termine sur le Parlement européen. Qu'avez-vous appris de plus intéressant ou de plus intriguant, plus surprenant sur nos voisins européens? Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on connaît très, très mal les Allemands, les Italiens, les Anglais. Et quand on est au Parlement européen, tout d'un coup, je pense que, surtout quand on n'a pas forcément passé trop de temps dans les milieux européens, on découvre beaucoup de choses. Et quelle chose la plus intéressante que vous avez appris sur nos voisins?
Pascal Canfin.
Très bonne question. Je pense que c'est justement... le paradoxe entre le fait que la France a des valeurs universalistes et universalisantes et connaît très très peu ses voisins, alors que les autres qui ne prétendent pas à les autres pays, ne prétendent pas à cet idéal universalisant à partir de leur modèle, finalement, du coup, regardent ce qui se passe ailleurs pour chercher à dialoguer, à s'imprégner de ce qui se fait. Donc on a une prétention à l'universel qui se retourne contre nous, parce que finalement, on connaît très peu nos voisins. Et là, c'est un élément juste, c'est anecdotique, mais ça reflète quand même la réalité, c'est la question de la langue. Les députés français sont de très très loin ceux qui parlent le moins anglais. Au Parlement européen, comme dans l'ensemble des institutions européennes, vous avez trois langues officielles, mais deux langues qui sont les plus parlées, l'anglais et le français. Nous avons atteint aujourd'hui en Europe le seuil où... aucune réunion ne peut se tenir en français parce qu'il y a forcément au moins quelqu'un qui ne parle pas français. Et donc, elle se tient en anglais. Et comme les réunions ne sont pas toutes traduites, tant mieux pour le contribuable européen, si le parlementaire français ne parle pas anglais, il est très en retrait. Et donc, ça traduit, je pense, c'est pas pour faire de l'apologie de l'anglais, mais je veux dire, ça traduit un rapport à l'étranger et à l'universel qui est complètement paradoxal et qu'il faut changer, être plus pragmatique, moins péremptoire, mais regarder réellement ce qui se passe à l'étranger pour en tirer le plus de bénéfices possible.
Pascal Canfin, donc notre invité aujourd'hui au rendez-vous des politiques, député européen en route pour un premier mandat politique qui semble le passionner. Merci d'être venu nous trouver. Vous travaillez beaucoup apparemment.
Oui.
Que faites-vous de vos loisirs ?
J'essaie de m'occuper de mes enfants.
Nombreux ?
Voilà. Deux. Et voilà, c'est la conciliation de la vie politique, professionnelle maintenant et familiale. On essaie de mettre en acte ce que l'on prône par ailleurs. Et puis sinon, je suis engagé aussi dans des formes de consommation alternatives parce que je pense que, comme des AMAP par exemple, où on essaie de retrouver encore une fois une vraie cohérence entre la transformation sociale et politique que l'on prône et puis la transformation individuelle du quotidien.
C'est vrai que c'est un combat que vous défendez depuis longtemps et vous occupez aussi des consommateurs, hein, on l'a dit au Parlement européen. Merci d'être venu nous trouver. Merci beaucoup à nos collaborateurs habituels, Philippe Reynaud, Éloi Laurence aujourd'hui, Éric Mandonnet bien sûr pour l'Express. On retrouvera les titres des uns et des autres d'ailleurs sur tous ces sujets que nous avons traités sur notre site franceculture.com, notre tout nouveau site franceculture.com. Retrouvez l'émission Le Rendez-vous des politiques. Brigitte Mazière et Jean-Frédéric étaient avec nous aujourd'hui pour la réalisation et Laurence Genepin était là comme chaque semaine pour la préparation et la documentation. Pierre Gastineau réalise le bonus supplémentaire, donc toujours sur le site de l'émission. Et notre prochaine invitée la semaine prochaine, Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris. Très bonne journée à tous. Et c'est l'heure de l'œil du larynx avec le professeur Rollin.